Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Brachot, page 52, Daf Nun Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Et malgré cela, nous avons besoin de préciser que la loi est fixée suivant l'avis de Bet Hillel. Pourquoi ? Verabi Oshoaï, car cette braïta suit l'avis de Rabbi Oshoa, Dehamar qui a dit El Mashgichim Bebatkol, on ne fait pas attention aux voix qui sortent du ciel. Nous avons fini ici le shiur de Daf Nun Aleph. Nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Nun Bet. Nous avons vu qu'il y a une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai lors du Kiddush. Quelle bénédiction devrons-nous réciter en premier? Est-ce que l'on devra réciter la bénédiction qui concerne la sainteté de la journée en premier ou la bénédiction qui sur le vin en premier? D'abord, Bet Shammai, on récite la bénédiction qui concerne la sainteté de la journée en premier. Alors, la Gemara demande, et nous sommes Daf Nun Bet Amud Alef, deuxième ligne, Vesavre Bet Shammai, de Birkat Hayom Adifa. Et Bet Shammai pense-t-il que la bénédiction qui concerne la sainteté de la journée est préférable? Vatania, mais pourtant, nous avons appris dans une braïta, Anechnas Lebeto Bemotzei Shabbat, quelqu'un qui rentre chez lui à la maison à la sortie du Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir, mais varech alayei, il récite d'abord la bénédiction sur le vin, ve'al amaro, et ensuite la bénédiction sur la lumière, ve'al apsami, ensuite la bénédiction sur les parfums, ve'acharkach, et après cela, Omer Avdala, il récite la bénédiction de la Avdala. Ve'imen lo el akos echad, et s'il n'a qu'un seul verre de vin, et il a continué le troisième repas du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat, et donc il doit rester le Birkat Amazon et l'Avdala sur un seul verre de vin. Menicho l'achar Amazon, il le laisse pour après le Birkat Amazon, au Meshal Shalan Kolan l'acharav. Et il fait suivre toutes les bénédictions que nous avons citées plus haut, c'est-à-dire le vin, la lumière, la bougie et l'Avdala, pour après le Birkat Amazon. Donc nous voyons ici que l'on récite d'abord la bénédiction sur le vin, et après la bénédiction qui concerne la sainteté de la journée, c'est-à-dire l'Avdala. Et donc nous voyons qu'on fait d'abord précéder la bénédiction sur le vin. Veha, Mimai de Bet Shammai. Et ça, d'où savons-nous que ça suit l'opinion de Bet Shammai? Dilma Bet Hillel, peut-être que ça suit l'opinion de Bet Hillel. Alors, Gemara répond, l'os al kadatar, tu ne peux pas penser une chose pareille. Pourquoi? Dektane, quand nous avons enseigné, Maor, Veharkar Psamim, que l'on récite d'abord la bénédiction sur la lumière, et après cela, la bénédiction sur le parfum. Uman Shamadle de Itle Haïsvara, et de qui avons-nous entendu qui tient un tel raisonnement? Bet Shammai, c'est l'opinion de Bet Shammai. Dektane, quand nous avons enseigné dans une braïta, Amar Rabbi Yehuda a dit, Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel à l'Amazon chez Bet Hillel. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel dans le cas où une personne a un seul verre de vin et il a continué le troisième repas du Shabbat jusqu'après la fin du Shabbat. Et il doit réciter donc sur ce verre de vin et le Birkat Amazon et l'Avdala. Alors dans un cas pareil, il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel que l'on récite le Birkat Amazon en premier. Vers l'Avdala Sheibasov et l'Avdala en dernier. Almaner Leko, sur quoi ont-ils discuté Bet Shammai et Bet Hillel? Ala Maor et Absamim. Sur la lumière, sur la bénédiction sur la lumière et sur la bénédiction sur le parfum. Bet Shammai Omri Maor Verkar Besami. Bet Shammai disent qu'on récite d'abord la bénédiction sur la lumière et après cela la bénédiction sur le parfum. Ou Bet Hillel Omri et Bet Hillel disent Besamim Verkar Maor. On récite d'abord la bénédiction sur le parfum et après cela la bénédiction sur la lumière. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un enseignement de Rabbi Yehuda qui nous explique que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel n'est pas sur le Birkat Amazon ou sur l'Avdala, mais sur la bénédiction de la lumière et des parfums. C'est-à-dire que cet enseignement de Rabbi Yehuda est en contradiction apparemment avec notre Mishnah, où nous avons appris une autre discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai. Mais la Gemara nous dit que Rabbi Yehuda est en discussion et non pas en contradiction avec la Mishnah. Et donc d'après cet enseignement de Rav Yehuda, toute la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, et est-ce qu'on le récite d'abord la bénédiction de la lumière ou d'abord la bénédiction du parfum? Et l'opinion de Bet Shammai est que l'on récite d'abord la bénédiction sur la lumière. Et donc, la Braïta qui nous a enseigné que quelqu'un récite la bénédiction lorsqu'il rentre chez lui, la bénédiction d'Avdala, il récite sur le vin, la lumière et le parfum, et après cela récite la bénédiction de l'Avdala, ça suit l'opinion de Bet Shammai, puisqu'on récite d'abord la bénédiction sur la lumière, et après cela la bénédiction sur le parfum. Et malgré cela, nous voyons que seulement en dernier, on récite la bénédiction sur l'Avdala. Donc nous voyons apparemment une contradiction dans les dires de Beit Shammai. Car à propos du Kiddush, Beit Shammai disent que l'on récite la bénédiction qui concerne la sainteté de la journée en premier. Par contre, à propos de l'Avdala, ils disent qu'on la récite en dernier. Agmara veut refuter ce raisonnement. Umimai de Beit Shammai valiba de Rabbi Yehuda, qui nous dit que c'est Braïta qui nous dit qu'on récite la bénédiction sur le vin, la lumière et les parfums, et seulement après ça la bénédiction de l'Avdala, suit l'opinion de Beit Shammai, et comme l'a expliqué Rabbi Yehuda, c'est-à-dire comme nous venons d'expliquer, Dilma Beit Hilleli valiba de Rabbi Meir, peut-être que c'est Braïta suit l'opinion de Beit Hillel, comme l'a expliqué Rabbi Meir, c'est-à-dire comme cela a été expliqué dans la Mishnah, c'est-à-dire que la discussion entre Beit Hillel et Beit Shammai n'est pas à propos de la bénédiction sur la lumière et le parfum, mais la discussion est que d'après Beit Shammai, on récite d'abord la bénédiction sur la lumière, après cela le Birkat Hamazon, après cela la bénédiction sur le parfum, et après cela la bénédiction sur Avdala. Et bien d'après Beit Hillel, on récite la bénédiction d'abord sur la lumière, sur ce point-là ils sont d'accord avec Beit Shammai, mais ils pensent qu'après cela on récite la bénédiction sur le parfum, et après cela le Birkat Hamazon, et en dernier lieu, l'Avdala. C'est-à-dire que la bénédiction entre Beit Shammai et Beit Hillel est à propos du Birkat Hamazon et la bénédiction du parfum. D'après Beit Shammai, on fait précéder le Birkat Hamazon, d'après Beit Hillel, on fait précéder la bénédiction sur le parfum. Mais d'après tout le monde, la bénédiction sur la lumière vient en premier lieu. Ça, c'est d'après l'avis de Rabbi Meir. Donc peut-être que la Braïta que nous avons citée plus haut, qui dit que l'on récite la bénédiction sur la lumière en premier lieu, suit l'opinion de Beit Hillel, d'après Rabbi Meir, et non pas l'opinion de Beit Shammai, d'après Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit, lo sakadatar, tu ne peux pas pencher une chose pareille. Dektane acha bemadin, car nous avons enseigné ici dans notre Mishnah, Beit Shammai omrim, Beit Shammai disent, ner umazon besamim veavdala. Dans le cas d'une personne qui n'a qu'un seul verre de vin à la fin de du troisième repas de Shabbat qu'il a continué après la sortie du Shabbat, alors l'ordre est qu'il devra réciter d'abord la bénédiction sur la lumière, après cela le Birkat Hamazon, après cela la bénédiction sur les parfums, et après cela l'Avdala. Ou Beit Hillel omrim, Beit Hillel disent, ner ou besamim, d'abord la bénédiction sur la lumière et après la bénédiction sur le parfum, ou mazon b'avdala, et la bénédiction du Birkat Hamazon, et après seulement cela la Avdala. Et par contre, là-bas, dans la Braïta que nous avons citée plus haut, Ktan et nous avons enseigné, s'il n'a qu'un seul verre de vin sur lequel il doit rester et le Birkat Hamazon et l'Avdala, mais Nihol Achar Hamazon, il le laisse pour après le Birkat Hamazon, ou Meshal Shelan, Kulan L'Acharav. Et il fait suivre toutes les bénédictions que nous avons citées plus haut, c'est-à-dire la bénédiction sur la lumière, le parfum et l'Avdala, après le Birkat Hamazon. C'est-à-dire qu'on récite la Birkat Hamazon en premier lieu. Or, d'après la Mishnah, c'est sûr qu'on ne récite pas le Birkat Hamazon en premier lieu. Il y a une discussion entre Beit Hillel et Beit Shammai, est-ce qu'on le récite en second lieu ou en troisième lieu? Donc cette Braïta, c'est sûr qu'elle n'est pas d'accord avec la Mishnah. Donc si elle n'est pas d'accord avec la Mishnah, on nous sommes obligés de dire qu'elle suit l'opinion de Rav Yehuda. C'est-à-dire que la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel n'est pas... Est-ce que le Birkat Hamazon est en second lieu ou en troisième lieu? Mais c'est sûr que le Birkat Hamazon, nous le récitons en premier. Et la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel est-ce qu'on récite d'abord la bénédiction sur la lumière ou d'abord la bénédiction sur le parfum? Or, si cette Braïta suit l'opinion de Rav Yehuda, et cette même Braïta nous dit plus haut que l'on récite d'abord la bénédiction sur la lumière, donc ça suit l'opinion de Beit Shammai, comme l'a expliqué Rav Yehuda. Et donc, puisque c'est ainsi, nous revenons à la première question. Puisque cela suit l'opinion de Beit Shammai, comme l'expliquait Rav Yehuda, donc nous voyons qu'on récite d'abord la bénédiction sur le vin, et après cela la bénédiction de l'Avdala, qui était la bénédiction qui concerne la sainteté de la journée. Et donc cela contredit l'enseignement de Beit Shammai à propos du Kiddush, où on récite d'abord la bénédiction qui concerne la sainteté de la journée, et après cela la bénédiction de l'Avdala. Alors, Agmano dit Shmamina, donc de là, ça sous-entend, de Beit Shammai, que cette Braïta suit l'opinion de Beit Shammai, va aller vers Rav Yehuda, comme l'enseignait Rav Yehuda, ou Mikol Makom Kasha, et donc de toute façon, il y a une question. Alors, ma réponse, Kassabre Beit Shammai. Beit Shammai pense, Shane Iluye Yome, Meapuke Yome. Il y a une différence lorsque, au début du jour, de la fin du jour. C'est-à-dire, lorsque Iluye Yome, lorsque le jour commence, c'est-à-dire lorsque le jour de fête ou le jour de Shabbat commence, Askama de Magdimanle, Adif. Plus on avance la sainteté, mieux c'est. C'est-à-dire, plus on fait précéder la bénédiction qui concerne la sainteté de la journée, mieux c'est. Apukayome, par contre, à la sortie du jour saint, à la fin du jour saint, kamadamacherinan leadif, plus on fait tarder la sortie du jour saint, mieux c'est. Pourquoi? Afin que ce n'ait pas l'air que c'est pour nous un joug. Donc c'est pour ça, plus on fait tarder la sortie du Shabbat ou du jour de fête, mieux c'est. Et donc c'est pour cela qu'on récite la Havdalah après la bénédiction du vin en dernier. La Gemara maintenant pose une autre question. D'après ce que nous venons d'étudier, il en ressort que Beit Shammai pense que l'on récite le Birkat Hamazon sur une coupe de vin. Alors Gemara demande, Visavre Beit Shammai, Birkat Hamazon, tout la cause, est-ce que Beit Shammai pense qu'on a besoin de réciter le Birkat Hamazon sur une coupe de vin? Vertnan, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah, Balaim Yain Lachar Hamazon, si on leur a amené du vin après le repas, et Men Shammai Lerotok Kos, s'il n'y a là-bas seulement ce verre de vin, Beit Shammai, Omrim Beit Shammai disent, Mevarech Alayain, il récite la bénédiction sur le vin, et donc le bois, Veacharkach Mevarech Alamazon, seulement après ça, récite le Birkat Hamazon. Donc nous voyons de là qu'il n'a pas d'autre verre de vin, et donc il a déjà bu le premier verre qu'on lui a amené, et récite le Birkat Hamazon, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de garder ce verre de vin pour réciter le Birkat Hamazon. Donc c'est là une preuve qu'on n'a pas besoin de réciter le Birkat Hamazon sur une coupe de vin. Alors Maïlam, n'est-ce pas, des Mevarech Ilouye, Veshatele, qui récite la bénédiction sur le vin, et sur le verre de vin, et le bois, avant de réciter le Birkat Hamazon. Il me répond, non, des Mevarech Ilouye, ou Manachle. Nous parlons d'un cas ici, où il récite la bénédiction sur le Birkat Hamazon, sur le vin, et le dépose jusqu'à après le Birkat Hamazon. On me demande, Ve'amarmar, Mevarech Tachitom. Pourtant, le maître nous a enseigné que celui qui récite la bénédiction doit goûter, et donc s'il a récité la bénédiction sur la coupe de vin, il doit la goûter avant de réciter le Birkat Hamazon. Agma répond, détaillé. Alors nous parlons d'un cas où il a goûté un petit peu. Agma demande, Ve'amarmar, alors pourtant le maître nous a enseigné, Teramo, Pegamo, du moment qu'il a goûté, il a abîmé. C'est-à-dire, s'il y a une coupe de vin sur laquelle on a resté une bénédiction et qu'on a goûté un petit peu de cette coupe de vin est considérée comme étant abîmée et on n'a plus le droit de rester une autre bénédiction sur cette coupe de vin. Et donc, on ne pourra pas rester le Birkat Hamazon sur cette coupe de vin. Alors, ma réponse est Taïm le Beyadé. Nous parlons ici pas qu'il a goûté directement dans la coupe, mais qu'il a goûté avec son doigt. C'est-à-dire, il a pris avec son doigt un petit peu du vin et il a goûté. Et donc, il n'a pas abîmé la coupe de vin. Et donc, c'est pour cela qu'il pourra rester le Birkat Hamazon sur cette coupe de vin. On me demande, à Marmar, pourtant le maître a dit, Kosel Bracha, le verre sur lequel on récite la bénédiction, Tsarir Shiou, il faut qu'il y ait dedans une mesure de un révit, d'un quart de log. Et donc, s'il a goûté, il y a moins que la mesure minimale. C'est-à-dire, puisque c'était un verre de vin dans lequel il y avait la mesure minimale, et donc, puisqu'il a goûté un petit peu, maintenant, il y a moins que la mesure minimale. Et donc, puisqu'il y a moins que la mesure minimale, alors on ne peut pas rester le Birkat Hamazon dessus. Alors, ma réponse, des nafishlet fait michuré. Non, nous parlons ici d'un verre dans lequel il y avait plus que la mesure minimale d'un quart de log. Alors, ma demande. Et là, pourtant, nous avons enseigné qu'il y a là-bas seulement ce verre de vin. Donc, ça sous-entend qu'il y a vraiment la mesure minimale. Alors, je me réponds non. Très loavé. C'est vrai qu'il n'y a pas là-bas deux verres de vin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux mesures. Ou Michal n'affiche. Mais il y a plus qu'une mesure minimale. C'est-à-dire, c'est un verre de vin où il y a dans lequel il y a un peu plus qu'une mesure de verre de vin, d'une mesure d'un quart de log, et puisque c'est ainsi, il récite dessus la bénédiction pour repérer les fins, le goûte un petit peu avec la main et donc ne l'abîme pas, et après cela, récite le Birkat Hamazon sur cette coupe de vin. Alors, ma demande, Ve'atan et Rabkhia, pourtant Rabkhia a enseigné, et Beit Shammai, Omrim Beit Shammai disent, Mevarech Alayin, il récite la bénédiction sur le vin, Ve'choteu, et le boit. Donc nous voyons ici explicitement qu'il boit le verre de vin. Et après ça, récite le Birkat Hamazon sans le réciter sur une coupe de vin. Donc, ça contredit ce que nous venons d'apprendre. Nous venons d'apprendre que, suivant l'opinion de Beit Shammai, on a besoin de réciter le Birkat Hamazon sur une coupe de vin. Et ici, Rabbi Kriya nous dit explicitement qu'on n'a pas besoin de réciter le Birkat Hamazon sur une coupe de vin. Alors, on répond, elle a très tanaï, valibade Beit Shammai. Alors, en effet, ce sont deux tanaïm qui discutent de l'opinion de Beit Shammai. Un dit que Beit Shammai pense qu'on est obligé de réciter le Birkat Hamazon sur une coupe de vin, comme nous l'avons appris de plus haut, et Rabkhia pense qu'on n'a pas besoin de réciter le Birkat Hamazon sur une coupe de vin. La Gemara rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Beit Shammai omrim, Beit Shammai disent vechule, etc., que l'on se lave d'abord les mains, on procède d'abord à netilat yadayim, et après cela, on verse le verre de vin. Et d'après Beth Hillel, c'est le contraire. D'abord, on sert le verre de vin, et après cela, on procède à Netiyat Yadayim. Et la Gemara maintenant va nous expliquer la raison de leur discussion. Mais auparavant, il faudrait faire une petite introduction. Il faut savoir que dans les lois d'impureté, il existe plusieurs degrés d'impureté. Le plus haut degré d'impureté est appelé Avi Avot Atuma. Traduction littérale, c'est le grand-père de l'impureté. Est considéré comme Avot Atuma, par exemple, le corps d'une personne qui est décédée. Ça, c'est considéré comme étant Avi Avot Atuma, le grand-père de l'impureté. Ensuite vient le degré de Avot Atuma, le père de l'impureté. Dans le père de l'impureté, ce sont toutes les autres sources d'impureté qui sont citées dans la Torah. Comme par exemple, un Zav, une personne qui a eu un écoulement qui le rendrait impur, ou une Zava, une femme qui aurait eu un écoulement qui la rendrait impure, etc. Ensuite viennent les degrés d'impureté. L'impureté au premier degré, Rishon, l'impureté au second degré, qui est appelée Sheni, et l'impureté au troisième degré, qui est appelée Shlishi. Dans certains cas, il existe aussi de l'impureté au quatrième degré, qui est appelée Revi, dans des cas vraiment particuliers. Ce sont là tous les cas d'impureté. Maintenant, il faut savoir que l'impureté se transmet d'une chose à une autre. C'est-à-dire, quelque chose ou quelqu'un qui est impur transmet l'impureté, le plus généralement, c'est en touchant une autre chose. Lorsque l'impureté est transmise, elle n'est pas transmise au même degré, mais l'impureté est transmise à un degré en dessous. Par exemple, nous avons dit que le corps d'une personne qui est décédée est appelé Avi Avot Atuma, le grand-père de l'impureté. Si quelqu'un touche le corps d'un mort, il deviendra lui aussi impur, mais à un degré en dessous, c'est-à-dire au degré de Avot Atuma, le père de l'impureté, etc. Et donc automatiquement, par exemple, quelqu'un qui est impur au second degré et touche des aliments, alors ces aliments deviennent impurs au troisième degré. Ce sont là les règles de pureté et d'impureté. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une règle qui nous dit qu'il est interdit de manger la terouma qui elle-même est devenue impure. Or, les sages savaient que Yadaim Askaniot En, les mains ont l'habitude de s'occuper. C'est-à-dire, les mains s'occupent et touchent beaucoup de choses et beaucoup d'objets au courant de la journée, même sans que la personne fasse attention à ce qu'il touche et à ce qu'il ne touche pas. Et donc, automatiquement, on peut craindre que les mains, au courant de la journée, aient touché quelque chose d'impur et elles-mêmes soient devenues impures. Et donc, lorsqu'il va venir à manger de la terouma, il va rendre impure la terouma. C'est pour ça que les sages ont décrété que les mains sont toujours impures au second degré, et donc si elles touchent de la terouma, la rendent impure au troisième degré, et il serait donc interdit de la manger. Et c'est pour cela qu'il faut procéder à netilat yadaim, se laver les mains, avant de manger la terouma. Cette loi s'applique seulement lorsqu'on mange de la terouma. Mais les sages ont élargi ce décret, et ont dit que si l'on mange du pain, même si ce pain est profane, c'est-à-dire qu'il n'est pas sain par de la terouma, il est complètement profane, on doit aussi se laver les mains, car pour ne pas en arriver à un cas où quelqu'un vienne à manger de la terouma en oubliant de se laver les mains. Après avoir fait cette petite introduction, nous pouvons continuer la Gemara. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, notlim la yadaim, ve'acharkach mosgim et akos. D'abord on se lave les mains, on procède à netilat yadaim, pour se purifier les mains, et après cela, on sert le verre de vin. Pourquoi ? Shi matam omer mosgim et akos trila. Car si tu me dis que d'abord on verse, on sert le verre de vin, gzera shema itamu mashkim shachore akos mechamat yadav. On peut craindre que, de peur que les boissons qui se trouvent sur la paroi extérieure du verre deviennent impures à cause de ses mains. Car nous avons dit que les mains sont toujours impures au second degré. Et donc, si ses mains touchent les boissons qui se trouvent sur la paroi extérieure du verre, elles rendent ces boissons elles-mêmes impures. Veyar zéro, veyetamo et akos. Et donc nous pouvons craindre que ces boissons elles-mêmes vont rendre impur le verre. C'est-à-dire, étant donné qu'elles-mêmes sont devenues impures, alors elles vont rendre impur le verre. Et ici, il faut signaler une loi à propos des lois de pureté et d'impureté qui nous dit que lorsque une boisson devient impure, alors par un décret des sages, elle devient toujours impure au premier degré. C'est-à-dire même si une impureté de second degré l'a touché, comme par exemple dans notre cas, les mains qui sont impures au second degré ont touché ces boissons, malgré cela, elle contracte une impureté de premier degré. Et donc, puisqu'elle contacte une impureté de premier degré, ces boissons vont rendre impur le verre à une impureté de second degré. Alors la Gemara demande, « Velit mouyadaim lakos » Pourquoi ne disons-nous pas que, ne craignons-nous pas que les mains elles-mêmes vont rendre impur le verre? C'est-à-dire, pourquoi craignons-nous que les mains vont rendre impur les boissons qui elles-mêmes vont rendre impur le verre? Nous ne devons craindre que les mains directement vont rendre impur le verre. Alors la Gemara répond, « Yadaim shniyoten » Les mains sont impures au second degré. Et une impureté de second degré ne peut rendre quelque chose d'impur au troisième degré lorsque ce sont des choses profanes, et là, il y a des machines, seulement par l'intermédiaire d'une boisson. Et donc, c'est la raison de Beit Shammai pour laquelle nous devons d'abord nous laver les mains avant de servir le verre de vin. Car si l'on sert d'abord le verre de vin, on peut craindre que le verre va devenir impur, comme nous venons de l'expliquer. Ou Beit Hillel omrim, et Beit Hillel disent, Mosgim et akos, v'arakach notlim le yadaim. D'abord, on sert le verre de vin, et seulement après cela, on se lave les mains. Pourquoi? Shi mata omer notlim le yadaim techila, car si tu me dis que d'abord on se lave les mains, gzera shema yetamu mashkim shebadaim mechamat akos, on peut craindre que les boissons ou les liquides qui se trouvent dans ses mains vont devenir impurs à cause du verre. C'est-à-dire, ici, nous craignons que le verre lui-même est impur, et donc le verre va rendre impur les liquides ou les boissons qui se trouvent dans ses mains, et ces liquides vont eux-mêmes rendre impurs à nouveau les mains. Ragma demande, et donc, puisque c'est comme cela, il faut d'abord verser le verre de vin, et seulement après cela, se laver les mains, car dans un cas pareil, il n'y a pas à craindre que le verre rendre impur les mains. Ragma demande, Venit mekos la yadaim, pourquoi ne disons-nous pas, que nous ne craignons-nous pas, que le verre lui-même rende impur les mains? C'est-à-dire, nous avons vu plus haut que la crainte de Beit Hillel est que le verre rende impur les boissons qui sont dans les mains, et ces boissons, ces liquides, vont rendre impur les mains. Mais on peut craindre que le verre lui-même va rendre impur les mains. Et donc, même si on sert le verre de vin, et avant de se laver les mains. Et après cela, on se lave les mains. Mais quand on va le boire, ce verre de vin, mais le verre lui-même va rendre impur les mains. Ma réponse, non. En kelim et amé adam. Un ustensile, comme par exemple un verre, ne peut rendre impur un homme, et seulement par l'intermédiaire d'une boisson. C'est-à-dire, l'ustensile rend impur la boisson ou le liquide, et ce boisson ou ce liquide rend impur l'homme. Mais l'ustensile lui-même ne peut rendre impur l'homme. Ma demande, Venit me le mashkin shebetocho. Et pourquoi ne craignons-nous pas que ce verre rende impur la boisson qui se trouve à l'intérieur de ce verre? Alors nous répondons, Acha bekli shenitmeu achora bemashkin askinan. Ici, nous parlons d'un cas vraiment spécial. D'un cas où ce verre, c'est seulement la paroi extérieure de ce verre qui est devenue impure par l'intermédiaire d'une boisson. Et donc, dans un cas pareil, des tocho tao, l'intérieur du verre est pur. Et donc, toute la boisson qui se trouve à l'intérieur du verre est aussi pure. Vegabotame, mais seulement la paroi extérieure est impure. Et donc, automatiquement, ce qui touche la paroi extérieure devient lui aussi impur. Par contre, ce qui est à l'intérieur du verre est pur. Ditnan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Kli shenitmeu achora bemashkin, un ustensile duquel la paroi extérieure est devenue impure à cause d'une boisson ou d'un liquide. Alors, la loi est que achorav tmeim, la paroi extérieure est impure.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Daf nun bet amut bet. Tocho veogno veoznav veyadav. Tocho, c'est son intérieur. Ogno, oznav et yadav, ce sont des sortes de hanches. Tehorim sont purs. C'est-à-dire, c'est seulement la paroi extérieure qui est pure, mais l'intérieur et les hanches sont purs. Par contre, nitma tocho, si la partie intérieure de cet ustensile est devenue impure, nitma kulo, il est entièrement devenu impur. Et donc, puisque nous parlons d'un cas pareil, où seulement la partie extérieure du verre est devenue impure, il n'y a pas à craindre que ce verre va rendre impur la boisson qui se trouve à l'intérieur de ce verre. Mais la crainte qu'il y a, c'est que ce verre rende impur des liquides qui se trouvent dans les mains de la personne qui le prend, et ces liquides vont aussi à nouveau rendre impur les mains de la personne qui l'utilise. Et donc c'est pour cela qu'on se lave les mains après avoir servi le verre de vin. La Gemara demande maintenant Bemaï Kamiflik. Quelle est leur discussion? C'est-à-dire, pour quelle raison Bet Shammai craignent que les mains rendent impur le verre et Bet Hillel craignent le contraire, que c'est le verre qui rendra impur les mains? Alors la Gemara explique. Bet Shammai savre, Bet Shammai pense, Asur l'ishtamesh bikli shenit mawa chorab mashkin. Il est interdit d'utiliser un ustensile dont la paroi extérieure est devenue impure à cause d'une boisson. Xera mishum nitzotzot, car l'on craint qu'il y ait des éclaboussures et que les éclaboussures de ces boissons ont rendu impure aussi la partie intérieure de cet ustensile. Et donc, puisque c'est ainsi, veleka le migzar shema yetamu amashkin sheba yadaim bekos, et donc il n'y a pas à craindre que les liquides ou les boissons qui se trouvent dans les mains vont devenir impures à cause du verre, car on n'utilise pas de verre qui sont impurs. Ou bien il est vrai, par contre, ben il pense, mutar leishtamesh bikli shenit ma'orav mashkin, il est permis d'utiliser un ustensile ou un verre dont la paroi extérieure est devenue impure à cause d'une boisson. Et donc, si c'est ainsi, on craint que les mains vont devenir impures à cause du verre par l'intermédiaire d'une boisson. Et pourquoi eux pensent qu'il est permis d'utiliser un verre pareil? En vrai, ils ont dit, nitzotzot lo shriche. Les éclaboussures, ce n'est pas quelque chose de courant. Et donc, on n'a pas à craindre. Veika le michash, shema yetamu mashkin, shebaladaim, mechamat akos. Et donc, il y a à craindre que les liquides ou les boissons qui se trouvent dans les mains vont devenir impurs à cause du verre et vont à nouveau rendre impurs les mains. C'est pour cela qu'on se lave les mains après avoir servi le verre. D'avachère, une autre explication, quelle est la raison de Bet Hillel? Tekef l'intilat yadaim, seuda. Immédiatement après s'être lavé les mains, on doit procéder au repas et on ne doit pas s'interrompre en servant le verre de vin. Alors que ma demande, Maï d'avachère, pour quelle raison avons-nous besoin d'une autre explication? Alors, Achikamar, c'est comme ça qu'il faut dire. Léo, Bet Hillel, les Bet Shammai. C'est ainsi que Bet Hillel leur ont dit à Bet Shammai. Les ditrou de Amritu asol ishtamesh bikli shachorav tmeim. Même d'après vous qui ont dit, que vous avez dit, qu'il est interdit d'utiliser un ustensile dont la paroi extérieure est devenue impure à cause d'une boisson, des gazrin al mishum nitzot, car l'on craint qu'il y ait des éclaboussures qui ont rendu impure aussi la partie intérieure de cet ustensile. Afilo achim, malgré cela, ha'adifa, cela est préférable. Pourquoi? De tekef l'intilat yadaim seuda, car immédiatement après avoir procédé à l'intilat yadaim, on doit procéder au repas. Et donc même d'après vous qui craignez et qui dites que l'on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile qui est impur, malgré cela, il faut d'abord servir le verre de vin et après cela se laver les mains afin de procéder immédiatement après s'être lavé les mains au repas et ne pas s'interrompre entre le lavage des mains et le repas. Le Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Bet Shammai Obrim, Bet Shammai disent, Mekaneach, on s'essuie les mains, etc., verroulé, etc. C'est-à-dire, on s'essuie les mains sur une serviette que l'on dépose sur la table. Par contre, après l'avis de Bet Hillel, on ne dépose pas la serviette sur la table, mais sur le coussin. C'est-à-dire, à l'époque, ils dormaient sur des lits, il y avait donc des coussins, on dépose donc la serviette sur le coussin et pas sur la table. Alors, la Gemara va expliquer la raison de leur discussion. Tano Rabban, nos sages nous ont enseigné. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Mekaneach yadav bemapa ou menicha la shulchan. Un homme, une personne, s'essuie les mains avec une serviette et la dépose sur la table. Shimata omer à la kesset, car si tu me dis qu'on la dépose sur le coussin, gzera shema itamu mashkin sheba mapa mechamat a kesset, on peut craindre que les boissons, les liquides qui se trouvent dans la serviette vont devenir impurs à cause du coussin, qui lui-même est impur, veyarzero veyetamu et ayadaim. Et donc ces boissons vont elles-mêmes à nouveau rendre impures les mains, c'est-à-dire lorsqu'il s'essuiera à nouveau les mains dans cette serviette, il va automatiquement toucher ses liquides et ça va lui rendre impures les mains. Et donc, après, il ne pourra plus continuer à manger car il va rendre impure la nourriture qu'il a. Alors, on me demande, venit me keset le mapa. Pourquoi disons-nous pas directement que le coussin rend impur la serviette? Pourquoi avons-nous besoin de dire que le coussin va rendre impures les boissons qui se trouvent dans la serviette et elles-mêmes vont rendre impures les mains? Disons que le coussin rend impur les serviettes. Alors, il me répond, « En kelim et amekli, un ustensile ne peut rendre impur un autre ustensile. » C'est une loi de pureté et d'impureté. Un ustensile ne peut rendre impur un autre ustensile. Et donc, c'est pour ça que nous sommes obligés de dire que le coussin va rendre impur les boissons qui elles-mêmes vont rendre impur les mains. Et on me demande, « Venit me, qu'est-ce que c'est les gavres à gouffer ?» Pourquoi ne disons-nous pas que le coussin lui-même va rendre impur l'homme ? Il me répond, « En kelim et amekli, un ustensile ne peut rendre impur un homme. » Ça, c'est donc la raison de Beit Shammai. Ou Beit Hillel, oui, et Beit Hillel disent, à la caissette, on doit déposer la serviette sur le coussin. Pourquoi ? Shim, ata omer la shulchan, car si tu me dis qu'on la dépose sur la table, gzer Hashem haitamu mashkim shebamapa mechamat shulchan, on peut craindre que les liquides, les boissons qui se trouvent dans la serviette vont devenir impures à cause de la table, qui elle-même est impure. Veyarzero veitamu et aochlin. Et ils vont et donc ces liquides vont eux-mêmes rendre impurs les aliments. C'est-à-dire, étant donné qu'on pose la serviette sur la table, c'est très possible que les aliments que l'on mange vont toucher la serviette. Et donc, puisque la serviette est impure à cause des boissons qui sont impures dans cette serviette, alors ça va rendre impurs aussi les aliments. La Gemara demande, Velit Meshulchan, la Ochrin Shebetocho, pourquoi ne disons-nous pas directement que la table rend impurs les aliments qui se trouvent dessus? On me répond, ici nous parlons d'un cas où la table est impure au second degré, et une impureté de second degré ne peut rendre impure au troisième degré lorsque ce sont des choses profanes, seulement par l'intermédiaire de boissons ou de liquides. Et donc c'est pour cela que nous disons que la table rend impure les boissons qui se trouvent sur la serviette, et ces boissons vont elles-mêmes rendre impures les aliments. On me demande, quelle est la discussion? C'est-à-dire, quelle est la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel? Pourquoi Beit Shammai craigne que c'est le coussin qui va rendre impur la serviette? Et pourquoi Beit Hillel pense que c'est la table qui va rendre impur la serviette? Alors, on me répond, Beit Shammai, c'est vrai, assur les shtamel b'shulchan sheni. Beit Shammai pense qu'il est interdit d'utiliser une table qui est impure au second degré. Gzera mishum ochle teruma. Car on craint. C'est un interdit qui a été décrété de peur qu'on en mange dessus de la terouma. Or, nous avons dit qu'il est interdit de manger de la terouma pure. Et donc, si on utilise une table qui est impure au second degré et qu'on dépose dessus des aliments de terouma, ces aliments vont devenir impurs au troisième degré et il sera interdit de les manger. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'on n'utilise jamais de table qui est impure au second degré, car l'on craint que si on le permet pour les choses profanes, on va le permettre aussi pour les aliments de Trouma, et chose qui est interdite. Et Beit Hillel, c'est vrai, par contre Beit Hillel pense, Moutar l'Eshtamesh Beshulchan Sheni, il est permis d'utiliser une table qui est impure au second degré. Pourquoi? Orle Trouma Zrizim, ceux qui mangent la Terouma d'habitude, c'est-à-dire les Kohanim, sont des gens zélés, et donc font attention à ne pas déposer de la Terouma sur une table qui est impure. Et donc, on n'a pas à craindre que si l'on permet d'utiliser une table impure au second degré pour les choses profanes, qu'on va l'utiliser aussi pour y déposer des aliments terouma. D'avoir à faire une autre explication. En netilat yadaim lechulin mina Torah. Il n'y a pas d'obligation de se laver les mains pour les aliments profanes d'après la Torah. La Gemara demande, maï d'avar acher, quelle est cette autre explication? Alors, achi kamre leu Beit Hillel et Beit Shammai. C'est ainsi que Beit Hillel leur ont dit à Beit Shammai. Ici, vous allez nous dire pour quelle raison y a-t-il une différence entre les aliments et les mains. C'est-à-dire que, à propos des aliments, comme nous venons de l'expliquer d'après Beit Hillel, on craint que la serviette, puisque les aliments, comme nous venons d'expliquer d'après Beit Hillel, on craint qu'ils deviennent impurs à cause de la serviette. Par contre, les mains, on ne craint pas qu'elles deviennent impures à cause de la serviette. C'est-à-dire, on dit, on peut déposer la serviette sur le coussin, même si après les mains vont devenir impures. Mais on ne la dépose pas sur la table, car on craint que cela va rendre impurs les aliments. Alors, pour quelle raison y a-t-il une différence? La Beit Hillel répond, Afiloachim, malgré cela, Hadifa, comme cela, c'est préférable. De en netilat yadaim lachulin min haTorah, car il n'a pas l'obligation de se laver les mains pour manger des aliments profanes d'après la Torah. Et donc, mutav sheyitamu yadaim delet leuikar midoraita, il vaut mieux que les mains deviennent impures, car il n'y a pas d'origine de les rendre impurs d'après la Torah. C'est seulement d'ordre rabbinique. Valitamu ochlim de itle oikarmi d'oraita. Plutôt que les aliments deviennent impurs, car il y a une source à ce que les aliments deviennent impurs d'après la Torah, ce qui n'est pas le cas demain. La Gemara apporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Mechabdim vechole, on balaye, etc. C'est-à-dire d'après Bet Shammai, d'abord on balaye la maison et après cela on se lave les mains à la fin du repas. Et d'après Bet Hillel, d'abord on se lave les mains et après seulement on balaye la maison. Alors Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Mechabdim et abayit, veacharkach notlim le yadayim. On balaye le parterre de la maison et seulement après cela on se lave les mains d'après le repas. Car si tu me dis qu'on va se laver les mains d'abord, avant de balayer, il se trouve que tu abîmes les aliments. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a toujours des miettes de pain qui tombent par terre, or quand on se lave les mains, il y a aussi de l'eau qui tombe par terre, donc il y a de l'eau qui va tomber sur ces miettes de pain, et donc vont les rendre inaptes à manger, et ça va les abîmer. Et nous suivons maintenant l'opinion du bar qui nous dit qu'il faut sauter la phrase qui suit. Et nous continuons donc directement à l'avis de Bet Hillel, une ligne plus bas. Où Bet Hillel omrim et Bet Hillel disent Im Shamash Talmid Chacham ou si c'est un serviteur, celui qui les sert, c'est-à-dire qui leur amène à manger et qui leur amène à boire et donc qui leur amène aussi à se laver les mains, c'est un érudit. Notel Pirurim Sheyesh Baim Kazait ou Meniar Purim Sheyen Baim Kazait. Il récupère les miettes dans lesquelles il y a une mesure de 1 Kazait, c'est-à-dire des grosses miettes. Ça, il les prend, mais il laisse les petites miettes dans lesquelles il n'y a pas une mesure d'un kazaït. Et après cela, il leur amène à se laver les mains. Et donc, ce n'est pas grave s'il y a de l'eau qui coule sur ces petites miettes. Et après s'être lavé les mains, alors on peut balayer la maison complètement. Alors, Agma nous dit, mais ça y est, allez, le Rabbi Yochanan. Ça soutient l'avis de Rabbi Yochanan. D'Ama Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit, Pirurim she'en baim kazaït. Des miettes dans lesquelles il n'y a pas une mesure de un kazaït, mutar l'avdan bayad. Il est permis de les abîmer directement dans sa main. Donc puisque nous voyons que d'après Bet Hillel, on ramasse les grosses miettes et les petites miettes, on peut les laisser, même si on va y faire tomber de l'eau et donc les abîmer, ça soutient donc l'opinion de Rabbi Yochanan. On me demande, Bemaï kamifligé, quelle est la discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai? On me explique. Bet Hillel, c'est vrai, assur l'ishtamesh b'shamash amaretz. Bet Hillel pense qu'il est interdit d'utiliser un serviteur qui est ignorant. Et donc, puisque le serviteur est toujours érudit, alors il sait qu'il faut enlever les grosses miettes et ce n'est pas grave si on abîme les petites miettes. Ou Bet Shammai, c'est vrai, Bet Shammai pense, mutar l'ishtamesh b'shamash amaretz. Il est permis d'utiliser un serviteur qui est ignorant. Et donc, on peut toujours craindre que ce serviteur qui est ignorant ne sait pas qu'il faut enlever les grosses miettes, et donc il va amener maïm acharonim, l'eau pour se laver les mains à la fin du repas, et il risque de faire tomber de cette eau sur les grosses miettes qui sont là, car étant donné qu'il est ignorant, il ne sait pas qu'il faut enlever ces grosses miettes, et donc il va les abîmer. Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, Amar Ravuna, Rabbi Yossi Bar Chanina a dit au nom de Ravuna, Bekul et Pirkin, dans tout notre chapitre, Alacha ke Bet Hillel. La loi est fixée comme la vie de Bet Hillel. Bar Meha, à part ce cas-là, de Alacha ke Bet Shammai, où la loi est fixée suivant l'avis de Bet Shammai. Verebochaya, et Rebochaya, Madnevri, enseignait le contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas Bet Shammai qui disait que d'abord on balaye le parterre et après on se lave les mains, mais Bet Shammai disait le contraire, que d'abord on se lave les mains et après on balaye le parterre, et Bet Hillel disait que d'abord on balaye le parterre et après on se lave les mains. Ou Be'anam et Alacha ke Bet Hillel. Et dans ce cas-là, la loi est donc aussi fixée suivant l'avis de Bet Hillel. C'est-à-dire que d'après tout le monde, la loi est fixée que d'abord on balaye le parterre et après on se lave les mains, car il est permis d'utiliser un serviteur qui est ignorant. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Neru mazon vechule. Dans le cas d'une personne qui a un seul verre de vin à la fin de Seouda Shlishit, et il a continué sa Seouda Shlishit jusqu'à après la sortie de Shabbat, et donc avec ce verre de vin, on doit réciter le Birkat Amazon et la Havdalah. Alors l'avis de Bet Shammai est que l'on récite d'abord la bénédiction sur la bougie, ensuite le Birkat Amazon, la bénédiction sur le parfum et la Havdalah. Bet Hillel disent d'abord la bénédiction sur la bougie, après sur le parfum, ensuite Birkat Amazon, et après cela la Havdalah. La Gemara rapporte maintenant une histoire qui s'est passée. Ravuna bar Yehuda ikla le be Rava. Ravuna bar Yehuda s'est trouvé à la maison de Rava. Chazier le Rava de Barich Abesamim. Il a vu que Rava, dans un cas pareil comme nous l'avons cité plus haut, récitait d'abord la bénédiction sur les parfums, Bereiché au début. Amarle, alors il lui a dit, Mirde Bet Shammai ou Bet Hillel Amar l'obligé. Puisque Bet Shammai et Bet Hillel, sur la lumière, c'est-à-dire la bénédiction sur la bougie, il n'y a pas de discussion. Détania, car nous avons enseigné dans une bretta. Bet Shammai, au moins, Bet Shammai disent, Ner Umazon, Besamim Vavdala. D'abord la bénédiction sur la bougie, ensuite le Birkat Amazon, ensuite la bénédiction sur les parfums, et ensuite la bénédiction sur Avdala. Ou Bet Hillel, au moins, Bet Hillel disent, Ner ou Besamim, Mazon Vavdala. D'abord la bénédiction sur la bougie, ensuite la bénédiction sur le parfum, le Birkat Amazon et la Avdala. Mais d'après tout le monde, la bénédiction sur la bougie est en premier. Alors pourquoi Rava a resté la bénédiction sur le parfum en premier? Alors Rava lui a répondu immédiatement, Zou divrei Rav Meir, la braïta que tu viens de nous citer, c'est l'avis de Rav Meir. Et comme nous l'avons expliqué aussi, c'est l'avis de la Mishnah. Aval Rabbi Yehuda Omer, par contre Rabbi Yehuda dit, L'onechreko Bet Shammai ou Bet Hillel à l'Amazon, chez Obatrila. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel sur le Birkat Amazon, car c'est sûr qu'on le récite en premier. Vers l'Avdala chez Ibasov, et l'Avdala, c'est sûr qu'on la récite en dernier. Al-Manechleko, sur quoi ont-ils discuté? Al-Amaor vers l'Absamim, sur la bougie, sur les lumières et sur le parfum. Chez Bet Shammai, au moins, car Bet Shammai disent Al-Amaor vers Karkar Besamim, on récite d'abord la bénédiction sur la lumière, sur la bougie, et après cela, la bénédiction sur le parfum. Ou Bet Hillel au moins, Bet Hillel disent Besamim Barkar Maot. D'abord la bénédiction sur le parfum, et après ça la bénédiction sur la bougie. Vama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit Nagou Aham, ke Bet Hillel Aliba de Rabbi Yehuda. Le peuple a pris l'habitude de se conduire suivant l'avis de Bet Hillel, comme l'a enseigné Rabbi Yehuda. La Gemara rapporte maintenant un autre texte de la Mishnah. Bet Shammai au moins, Bet Shammai disent Shebara Meor Aesh, je voulais, qui a créé la lumière du feu. Et d'après Bet Hillel, on bénit Boré Meoré Aesh, qui crée les lumières du feu. Or, quelle est leur discussion? Amar Rava a dit, Be Bara, lorsque nous utilisons le terme Bara, Kula Alma l'obligé de Bara Mashma. D'après tout le monde, il n'y a pas de discussion que ça sous-entend qu'il a créé au passé. Qui plige leur discussion est Be Boré, lorsque nous utilisons le terme Boré. Bet Shammai savrait Boré de Hatid le Mivre. Bet Shammai pense que lorsque nous utilisons ce terme de Boré, ça sous-entend qu'il, dans le futur, va créer. Et donc c'est pour ça que nous récitons la bénédiction chez Bara qui a créé. Ou Bet Hillel savrait, et Bet Hillel pense, Boré Nami de Bara Mashma. Même lorsque nous utilisons le terme Boré, ça sous-entend qu'il a créé au passé. Et donc c'est pour cela que l'on peut réciter la bénédiction Boré Meoresh, qui veut dire qui a créé les lumières du feu. Métiv Rabbi Yosef, alors Rabbi Yosef demande, il écrit pourtant dans le verset, Yotzer Or Uvore Rocher, qui a confectionné la lumière et a créé l'obscurité. Il est dit un autre verset aussi, Yotzer Arim Uvore Ruach, qui a confectionné les montagnes et a créé le vent. Bore Hashamayim, un autre verset, Bore Hashamayim Venotem, qui a créé les cieux et les a déployés. Et donc nous voyons qu'à chaque fois nous utilisons le terme Bore, et c'est au passé. Et là, Rabbi Yosef, alors Rabbi Yosef a dit, Bebara o Boré, Kula alma lo plige, de Bara Mashma. Que nous utilisons le terme Bara ou le terme Boré, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion que ça sous-entend que ça a été créé au passé. Qui plige, alors leur discussion est entre Bet Hillel et Bet Shammai, Bemaor ou Meoré. Est-ce qu'il faut dire la lumière ou les lumières de Bet Shammai, c'est vrai, Bet Shammai pense, Chada Neoré, Ika Benoura. Il n'y a qu'une seule lumière dans le feu. Ou Bet Hillel savrait, et Bet Hillel pense, Tova Neoreika Benora, il y a plusieurs lumières dans le feu. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a plusieurs nuances de couleurs dans le feu, chaque nuance est une lumière à part entière. Tanenamachi, nous avons enseigné aussi une chose pareille. Amroulahem Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel leur ont dit à Bet Shammai, Arbe Meorot Yeshbor, il y a plusieurs lumières dans le feu. Donc nous voyons d'ici aussi que la discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai n'est pas à propos du terme Boré ou Bara, mais à propos de Meor ou Meoré. Est-ce que nous le disons au singulier ou au pluriel? La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. En mevachim vechule, on ne récite pas de bénédiction, etc., ni sur une bougie, ni sur les parfums d'un idolâtre. Et la Gemara explique pourquoi. Bishlaman ner mishum de lo shabbat. Je peux comprendre la raison pour laquelle on ne récite pas de bénédiction sur la bougie d'un idolâtre, car c'est une bougie qui ne s'est pas, la traduction littérale est, qui ne s'est pas reposée. Mais Rashi nous explique que l'explication est, pour l'instant, une bougie à la lumière de laquelle on ne s'est pas reposé. C'est-à-dire, à la lumière de cette bougie, on a fait des travaux. Et donc, puisqu'à la lumière de cette bougie, on a fait des travaux, et donc, en fait, pour elle, en quelque sorte, ce n'était pas Shabbat, des travaux qui sont interdits Shabbat. Donc, c'est pour ça que sur cette bougie-là, on ne fait pas Abdallah. Et la Bessamim, mais les parfums, Maïta Amalo, pour quelle raison ne pouvons-nous pas utiliser le parfum d'un idolâtre pour réciter la Abdallah Motei Shabbat? Amar Abiuda, Amar Rav, alors Abiuda a dit au nom de Rav, Acha be Mesibat of de Kochavim Askinan. Ici, nous parlons d'un festin d'idolâtre. Pas d'un idolâtre tout seul, mais d'un festin d'idolâtre. Mipnesh estam mesibat ovde kochavim l'avodazara. Car les festins des idolâtres, s'ils n'ont pas de but précis, alors en général, ce sont pour des cultes idolâtres. Et donc, puisque c'est un festin qui est pour un culte idolâtre, donc les parfums que l'on amène à ce festin aussi sont pour un culte idolâtre. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour l'Avdallah. Ragma demande, Hamid ektane sefa, mais puisque nous avons enseigné dans la fin de la Mishnah, en mevachim lo alaner velo alapsamim shel avodazara, on ne récite pas de bénédiction ni sur la bougie, ni sur les parfums que nous avons utilisés pour un culte idolâtre. Alors, Michlal derecha, lava avodazara skinan. Donc ça vient sous-entendre que le premier cas qui est cité dans la Mishnah, l'interdit n'est pas parce que ça a été utilisé à cause d'un culte idolâtre. Car si cela avait été un interdit, alors c'est déjà cité à la fin de la Mishnah. Agmara répond, non, Rabbi Hanina Misura a dit, Matam Kamar, la fin de la Mishnah, ce n'est pas un nouveau cas, mais c'est la raison du premier cas qui a été cité. Matam El Mevachim Lo Alaner Velo Lapsamim, pour quelle raison on ne récite pas de bénédiction ni sur la bougie, ni sur le parfum chez la Koum d'un idolâtre, Mipnei Shestam Mesibat Ovde Kochavim, Lavodazara. Car un festin d'idolâtre sans aucune précision, sans but précis, alors en général, c'est pour des cultes idolâtres. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser ni leurs bougies, ni leurs parfums. Nous avons fini ici le shiur de Daf Nun Bet. Nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Nun Gimel. Nous sommes Daf Nun Bet, Amud Bet, dernière ligne. Tanur Rabanan, le sage nous enseigne. Or, chez Shabbat, une lumière qui a gardé le Shabbat. Et nous allons expliquer plus loin que veut dire une lumière qui a gardé le jour du Shabbat. En Mevachim Alav, à la sortie du Shabbat, on peut réciter sur cette lumière la bénédiction de la lumière. Mais chez l'Or, chez Shabbat, par contre, si cette lumière n'a pas gardé le Shabbat, en Mevachim Alav, on ne peut réciter dessus la bénédiction à la sortie du Shabbat. On la gloire demande, ou Maï le Shabbat, que veut dire une lumière qui n'a pas gardé le Shabbat?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.